CJSO 101.7.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, 8 mars, l'émission sera consacrée évidemment à la Journée internationale des femmes ou des droits des femmes. Mes invités, l'ex-ministre Nicole Léger, les mairesses Maud Allaire et Diane de Tenancourt, la citoyenne engagée Corinna Bastiani, l'enseignante en sociologie Myriam Beauchesne-Lachapelle, la photographe sociale Nathalie Bergeron, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, Claudine Couture-Trudel, la directrice générale du cégep de Sorel-Tracy, Stéphanie Desmarais, la directrice de la Maison de la musique de Sorel-Tracy, Rachel Doyon, l'ex-présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Sonia Étier, l'avocate Christine Marchand et l'historienne Catherine Objoie. C'est d'ailleurs avec notre historienne en résidence, Catherine, que nous nous retrouverons dès après la pause. Restez là.
Chercher une propriété à distance n'est pas toujours efficace. C'est pourquoi Via Capital Platine vous offre son laboratoire de recherche. Dans le confort de nos bureaux, en sirotant votre boisson préférée, vous aurez accès à nos outils performants et les conseils de nos courtiers professionnels qui, en quelques clics, vous aideront à trouver exactement ce que vous cherchez et même ce qui n'est pas encore sur le marché. Prenez rendez-vous dès maintenant dans l'un de nos bureaux de Via Capital Platine.
Via Capital vendu, Via Capital vendu. .com.
En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca/isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Cette édition du 8 mars de la Tribune est consacrée à la Journée internationale des femmes. Mes invités, 12 femmes, dont je vais vouloir savoir si elles croient que l'avenir est féministe, comme le professe le collectif québécois du 8 mars, dont je vais vouloir savoir si le slogan que l'ONU a trouvé au 8 mars les inspire, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Catherine Objoie brise la glace, je me plais à la présenter comme notre historienne en résidence. Bonjour Catherine.
Bonjour Sylvain, ça va bien?
Mais oui, quel est donc justement, Catherine, l'historique de cette journée? Quand et où a-t-on commencé à la célébrer et pourquoi la date du 8 mars?
Écoute, ça a commencé dans l'émergence d'un mouvement de revendication de femmes fin 19e, début 20e, donc, et pour avoir la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, comme le droit de vote, pour obtenir de meilleures conditions de travail. Et l'origine, on fait remonter l'origine de cette journée du 8 mars au 28 février 1909, donc il y a 123 ans, ça s'est passé dans la région de New York. C'était une manifestation qui avait été organisée justement pour le droit de vote par des femmes, par le Comité national des femmes du Parti socialiste américain. On a appelé ça cette journée le Women's Day. Tu vois, et ça a commencé comme ça. Et en 1910, donc l'année suivante, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, il y a une Allemande, Clara Zetkin, qui a suggéré que le 8 mars soit la journée des femmes chaque année. Et c'était à l'époque, leur revendication, c'était essentiellement l'obtention du droit de vote. Parce que je te rappelle que avant la Première Guerre mondiale, les femmes n'avaient pas le droit de vote, sauf dans quelques pays, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Finlande et la Norvège. Mais, par exemple, pour donner une idée, tu vois, la femme a eu le droit de vote au Canada et au Royaume-Uni seulement en 1918, aux États-Unis en 1920. Au Québec en 1940 et en France en 1945. Alors, il y avait le mouvement des suffragettes qui était né en 1903 au Royaume-Uni. Donc, au départ, le 8 mars, c'était surtout pour le droit de vote. Et ensuite, la première fois qu'on a célébré la Journée internationale des femmes, c'était le 19 mars 1911. Donc, avant la Première Guerre mondiale, en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. Et pour faire le lien avec les événements actuels, avec la guerre en Ukraine, en 1917, le 8 mars, pour eux c'était le 23 février, parce que tu sais qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous, les femmes sont descendues dans la rue pour réclamer du pain. Et ça aboutit, parce que c'est l'époque de la guerre, tu sais, et petit à petit, ça aboutit à beaucoup, beaucoup de manifestations et un soulèvement. Et la chute du tsar, la révolution d'octobre, la naissance de la Russie et ensuite de l'Union soviétique.
C'est un cours d'histoire en accéléré qui doit puis la cloche qui sonne déjà alors que je suis certain que tu n'avais pas fini.
Ça a commencé comme ça. En 1977, l'organisation l'ONU a suggéré que ce soit le 8 mars, la journée de reconnaissance des droits de la femme partout dans le monde.
Voilà.
Et il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour l'égalité des droits, l'équité salariale. Tu sais, jusqu'en 1964, la femme au Québec n'avait pas d'entité juridique. Elle pouvait pas ouvrir un compte en banque.
C'est incroyable, hein? C'est incroyable.
Il y a encore beaucoup de progrès.
Oui, madame. Et merci beaucoup, Catherine. Puis je suis désolé de t'interrompre aussi rapidement. C'était passionnant. Merci Catherine.
Ben, c'est rien. Merci à toi.
Salut bien. Bonjour.
OK, bye-bye.
Nous rejoignons Stéphanie Desmarais au cégep de Sorel-Tracy qu'elle dirige depuis bientôt 3 ans. Bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Sylvain.
Vous êtes, après Françoise Richer et Fabienne Desroches, la troisième femme aux commandes du collège qu'un seul homme, Roland Gaudreau, aura jusqu'ici dirigé. C'est pas mal, non?
Oui, tout de même, hein? À noter que M. Gaudreau a quand même été là pendant 29 ans, là, mais...
C'est vrai.
À trois, on obtient là, la parité.
Que pensez-vous, Stéphanie, du slogan pour 2022 du collectif du 8 mars, « L'avenir est féministe ». Est-ce qu'il sonne agréablement à vos oreilles?
Oui, tout à fait, parce qu'à mon avis, il y a deux valeurs fondamentales hein, pour l'éducation. Là, on parle des femmes, mais moi, je m'intéresse particulièrement à l'éducation dans ma position. Donc, on parle d'équité et de justice, et ça doit primer pour moi en éducation. Donc, effectivement, le féministe est toujours d'actualité, d'autant plus, surtout s'il s'articule au travers de ces deux valeurs-là, là, d'équité et de justice. Donc, ça sonne toujours très d'actualité et très conséquent.
Il y a dans les différentes facultés une assez extraordinaire percée des filles. Leur réussite académique est supérieure à celle des garçons, on le dit beaucoup. On les voit investir en nombre croissant, là, des champs de pratique jusqu'ici plus traditionnellement masculins. Dans ce contexte plutôt favorable, parce que tout n'est pas gagné, mais dans ce contexte plutôt favorable, est-ce qu'il y a encore chez les jeunes femmes, vous les côtoyez au quotidien, les jeunes femmes, la fibre féministe qu'on retrouvait chez leur mère et leur grand-mère?
Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis complètement persuadée que ma génération à moi avons été les principales privilégiées. Donc, pour ma part, là, et ma génération de femmes avons eu des parcours académiques qui ont été très accessibles et faciles. Cette accélération-là s'est fait dans une courte période de temps. Donc, sans repasser, Catherine a bien fait la leçon d'histoire avant moi, sans repasser par toute l'histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que il a fallu attendre quand même plusieurs années là, au Québec avant qu'un premier collège classique soit accessible aux femmes, donc de l'Euro, pour que ça puisse ouvrir la porte des études supérieures et de façon plus rapide à partir de la création des cégeps, donc avec la réforme générée par le rapport Parent, là, donc à partir de 67. Et jusque-là, c'était presque exclusivement les hommes qui avaient accès aux études supérieures.
Je repose un peu ma question, puis je ne vous donne malheureusement que 30 secondes pour y répondre. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes femmes d'aujourd'hui sont conscientes de ça?
Ah, ben écoutez, je pense que depuis 90, c'est devenu normal. Donc, et à partir de ce moment-là, les filles sont devenues majoritaires à l'enseignement supérieur. À partir du début des années 90, c'est là que j'arrivais. Donc, et c'est pas nécessairement seulement dans l'enseignement supérieur, parce qu'elles se classent au-dessus des garçons dans tout le cursus, là. Et dans les mesures d'aide à l'apprentissage. Puis c'est une tendance marquée dans la majorité des pays de l'OCDE. Donc, je suis pas certaine que ce privilège qui a été durement gagné soit encore perçu comme tel.
Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous.
Toutefois, par contre, ce qu'on remarque, c'est que malgré ce beau succès-là et cette accessibilité-là, ça demeure que les filles, ils sont quand même dans des créneaux plus traditionnels. On voit beaucoup de femmes qui réussissent très bien là, comme enseignantes, comme gestionnaires, et en santé, en services sociaux, en droit, en éducation, mais elles sont sous-représentées encore en administration.
Il y a du chemin à faire encore. Stéphanie, je dois vous remercier. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce trop bref entretien.
Ça me fait plaisir.
Merci. Bonjour. Une femme faisait sa voix jusqu'à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Sorel-Tracy en septembre 2021. Elle est au bout du fil. Claudine Couture-Trudel, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Je vais bien. Je disais, elle est au bout du fil. Est-ce que vous êtes aussi au bout du rouleau, président et conseil d'administration formé très, très majoritairement d'hommes?
Non, ce n'est pas la composition genrée de notre conseil d'administration qui freine toute l'énergie que nos membres déploient pour passer à travers la pandémie puis appuyer le mieux possible la communauté d'affaires de Sorel-Tracy.
Les femmes sont-elles de plus en plus présentes dans les hautes sphères du commerce et de l'industrie chez nous, à Sorel-Tracy? Est-ce qu'on voit chez nous de plus en plus de dirigeantes d'entreprises, de femmes qui possèdent et gèrent leur commerce?
En fait, le Journal des affaires indiquait l'an dernier, en 2021, qu'il y a 40 % des femmes maintenant qui sont entrepreneurs au Québec. C'est un phénomène, cette présence-là est vraiment grandissante et importante des femmes comme dans le milieu des affaires est également reflétée à Sorel-Tracy dans notre communauté d'affaires. On a plusieurs membres féminines et puis vous connaissez certainement plusieurs des femmes qui composent le tissu d'affaires de la ville de Sorel-Tracy. D'ailleurs, on a nos membres qui sont très intéressés. On a mis sur pied en 2017 un comité entreprendre féminin qui permet justement à aux femmes intéressées de se regrouper, faire des échanges pour discuter des obstacles ou des succès qu'elles traversent pour justement permettre à d'autres de bénéficier de leur expérience particulière qu'elles acquièrent là, sur leur chemin d'entrepreneur.
Très intéressant. Le collectif 8 mars professe que l'avenir est féministe. Ça va être ma dernière question. Est-ce que c'est une profession de foi qui vous plaît?
Je pense absolument. Je pense qu'elle plaît à tous, qu'elle plaît autant aux hommes et aux femmes parce que cette égalité-là, on l'atteint, les femmes, par la collaboration et l'appui des hommes qui composent nos organisations, qui aussi font partie de nos vies. Tout à l'heure, Madame Desmarais, vous parlait du parcours scolaire des femmes qui est de plus en plus justement accessible pour les femmes, lorsque les femmes entrent sur le marché du travail, d'autres obstacles se dressent devant elles, dont le temps qui est nécessaire à la maternité, par exemple. Et puis, au cours des dernières années, la création des services de garde au Québec, par exemple, et ainsi que des congés parentaux qui s'adressent également aux hommes, ont permis aux hommes comme aux femmes de répartir différemment le travail à la maison pour la famille et ainsi permettre aux femmes qui le souhaitaient de poursuivre leur carrière de manière plus confortable et mieux appuyée par le reste de la société.
Oui, c'est une avancée que vous faites bien de signaler. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé à la ministre, l'ex-ministre Nicole Léger qui grâce à laquelle sont nés ces CPE, grâce à elle et sa consœur Pauline Marois. Merci beaucoup, Claudine Couture-Trudel.
Merci beaucoup. À vous. Bonne journée.
Bonne journée.
À tous.
Citoyenne engagée, Corina Bastiani a poussé cet engagement jusqu'à représenter son quartier à titre de conseillère municipale pendant plusieurs années à Sorel-Tracy et à briguer les suffrages sous la bannière du Parti vert du Canada dans le comté. Bonjour, Corina.
Bonjour, Sylvain.
Vous êtes une grande amante de la lecture et ce que vous avez sur la table de chevet ces jours-ci, ce sont les notes de terrain de Leslie Kern, qui regroupée sous le titre Ville féministe. C'est une prof de géo à l'Université Mount Allison au Nouveau-Brunswick qui s'intéresse notamment au rapport entre le genre et les villes. C'est intéressant. Vous retenez quoi de cette lecture?
Oui, c'est intéressant. En fait, c'est spécial parce que c'est un homme qui m'a mis sur cette piste, un homme urbaniste. Puis bon, on sait que par des années passées, c'est beaucoup d'hommes qui ont passionné nos villes. C'est Gérard Baudet, lors d'une conférence à l'Office de consultation publique, qui a cité ce nouvel ouvrage qui vient tout juste d'être traduit, en disant, parce que pour répondre un peu à la question du slogan de l'ONU, est-ce que l'avenir est féministe, M. Baudet devait parler sur l'avenir de Montréal en 2050, en disant que oui, si l'avenir est féministe, les villes sont féministes. Puis, donc, qu'est-ce qu'une ville féministe, tu penses, Sylvain?
Ben, je vous renvoie la question en vous demandant, est-ce qu'il y a des angles sous lesquels Sorel-Tracy est une ville féministe?
Sorel-Tracy, moi, je trouve que c'est une belle ville laboratoire. Ça fait longtemps que j'ai, on peut dire peut-être, cette obsession, parce que je trouve que c'est une ville de nature à échelle humaine, où c'est facile quand même par le dessin, en fait, qui date, là, le dessin du vieux Sorel, ne serait-ce que son premier quartier, est fait pour que les artères soient quand même assez larges et elles ont été encore plus bordées de verre qu'aujourd'hui, d'ailleurs, autrefois. Donc, la ville féministe, c'est une ville où il fait bon s'y promener. C'est une ville sans peur pour les femmes. C'est une ville où il y a beaucoup de lieux de socialisation. C'est une ville de proximité, où la conversation est facile de se créer, que ce soit avec un voisin, que ce soit avec une autre femme, que ce soit avec les enfants. Vous savez que les enfants sont élevés par un village, un proverbe africain. Donc, la ville féministe, c'est une ville où il fait bon vivre, où on pense, parce que, bon, dans l'historique de l'aménagement du territoire, les villes ont été dessinées beaucoup pour l'automobile, hein, les grandes artères, tout ça, qui a oublié un peu l'humain dans tout ça. Donc, c'est une ville qui ne devient pas une business de densification, mais une ville qui se doit de penser aux gens qui l'habitent, jusqu'à aller créer un dialogue important avec ces gens-là, parce qu'ils sont experts de leur quartier, experts de leur coin de rue, experts de leur ville, en fait. Puis parce qu'ils travaillent, on l'espère, parce que ne veut pas la pandémie, le livre a été écrit avant la pandémie, mais j'ai continué à fouiller sur le sujet. La pandémie nous permet une vague de fond d'ouverture à un changement que ça crée. Je pense que c'est un côté positif à ça. Puis une vague de fond aussi de se rapprocher. On travaille beaucoup plus en télétravail. Bon, il va continuer ce télétravail-là. Donc, tous les services de proximité, le commerce de proximité, l'économie circulaire risque de prendre un pas de géant. Donc, il faut adapter nos législations, nos lieux de rencontre à ces nouvelles réalités-là qui sont plus humaines. C'est une ville à échelle humaine, en fait.
Corina, merci de nous avoir partagé votre lecture et vos réflexions. Merci, Corina.
Au plaisir.
Myriam Beauchesne Lachapelle est enseignante en sociologie au cégep de Sorel-Tracy. Bonjour, Myriam.
Bonjour, Sylvain.
J'ai envie de vous demander quel degré, je l'ai fait à Stéphanie tantôt, quel degré de connaissance des jeunes femmes d'aujourd'hui ont des luttes que leur mère et leur grand-mère ont menées? Savent-elles qu'elles ne vivraient pas dans le même Québec sans les Idola Saint-Jean, Marie Lacoste, Gérin Lajoie, Thérèse Casgrain, Marie-Claire Kirkland, pour ne parler que de celles-là qu'on a immortalisées devant l'Assemblée nationale? Est-ce qu'elles sont conscientes, les jeunes femmes, des combats qu'ont menés ces femmes-là?
Chose certaine, elles s'y intéressent. Elles ont accès à plein de connaissances. Elles réseautent via les réseaux sociaux et elles s'affirment féministes là, de façon très ouverte pour plusieurs d'entre elles. Fait que moi, je trouve ça super encourageant. Puis, quand on dit que l'avenir est féministe, ça, c'est le slogan du collectif 8 mars, le slogan de l'ONU Femmes nous dit que l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Bien, pour moi, c'est deux exemples là, justement de comment l'avenir est féministe, notamment auprès des jeunes femmes. Puis l'avenir est féministe parce que il va rencontrer de grands défis. On est à l'aube d'une crise écologique qui commence, puis qui commence à avoir des impacts sur nous, qui va avoir des impacts sur la génération de mes étudiantes et des jeunes d'aujourd'hui. Puis ces grands défis-là affectent de façon disproportionnée les femmes et vont appeler à de grandes transitions. Et quand on dit que l'avenir est féministe, à mon sens, c'est qu'il va falloir que ces transitions-là, pour être justes, soient féministes et tiennent compte de la situation des femmes. Par exemple, la crise de la COVID a eu un effet disproportionné sur les femmes. Les femmes, c'est entre 54 et 68 % des emplois perdus sont ceux des femmes. Les femmes ont été affectées de façon disproportionnée parce que, par exemple, elles sont dans les professions du soin et de l'éducation de façon beaucoup plus large. Par exemple, elles ont été plus souvent infectées par la COVID parce qu'elles occupent des professions qui sont plus proches des personnes. Puis à ça, on peut rajouter même la grille d'analyse des hiérarchies sociales parce qu'on se rend compte que, par exemple, dans les professions du soin, on peut voir une certaine hiérarchie entre les professions et les femmes qui se trouvent dans les professions, par exemple, d'aide infirmière, préposée aux bénéficiaires, à l'entretien ménager, qui sont surtout des femmes racisées, ont été celles qui ont été les plus affectées selon l'INSPQ, qui avaient un risque d'exposition à la COVID beaucoup plus important. Puis, en ce sens-là, la COVID, ça a été comme un révélateur hein, de plusieurs inégalités qui existent dans la société. Puis, une des choses que ça a révélé, c'est l'importance des professions du soin et de l'éducation, parce que les femmes, dans les professions du soin et de l'éducation, où elles sont majoritaires, entretiennent le lien social, entretiennent l'humanité des personnes avec qui elles travaillent, préservent cette humanité-là. Et puis ça, bien, c'est une valeur ajoutée importante qu'on n'a pas assez reconnue. Leur travail émotionnel a été mis en lumière par la pénurie qu'on vit en ce moment, par la façon dont elles ont été affectées dans ces professions-là. Puis en ce sens-là, à mon avis, ça veut dire qu'il faut lutter pour des mesures concrètes pour reconnaître l'apport important du travail des femmes dans ces professions-là. Par exemple, en luttant contre des processus de gestion qui les déshumanisent ou qui les mettent à risque au niveau de leur santé physique et mentale.
Myriam Beauchesne-Lachapelle, je savais que ce serait intéressant de vous parler. Merci de votre son de cloche.
Ben merci à vous, Sylvain, au plaisir.
Merci, Myriam. De l'autre côté de la pause, je m'entretiens notamment, avec l'ex-ministre Nicole Léger.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Le mois de mars, c'est aussi l'arrivée du printemps et qui dit printemps dit changement. Du 24 février au 30 mars, rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour la promotion des électroménagers fiables de Maytag. L'équipe dynamique de Meubles André Beaulieu saura vous accompagner dans le choix de nouveaux électroménagers. Profitez de rabais additionnels allant jusqu'à 300 $ sur la marchandise sélectionnée. Parce qu'avec Maytag, la fiabilité dure. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Cette édition du 8 mars est consacrée à la Journée internationale des femmes ou des droits des femmes. Nicole Léger deviendra en 1996 la deuxième fille de l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec à succéder à un père qui a siégé également à l'Assemblée nationale, la première étant Claire Kirkland Casgrain. Nicole Léger est également la première femme de l'histoire du Québec à être whip en chef de l'opposition officielle, de même que la première femme à devenir whip comme son père précédemment. Bonjour, Nicole Léger.
Bonjour. Quel plaisir et quelle belle initiative.
Ça me fait plaisir. Je m'en confesse tant pour des raisons personnelles que professionnelles de te parler. Fallait que je te le dise. Je m'ennuie pas beaucoup, beaucoup de la politique, mais beaucoup de toi.
Ah, oh, c'est gentil. Moi aussi, de mon côté.
Je reviens au vous, Nicole. Vous avez créé, comme ministre de la Famille en 2001, avec Pauline Marois, les centres de la petite enfance au tarif quotidien de 5 $ par enfant, les CPE, ils ont profondément transformé la vie des femmes.
Énormément. Évidemment, ça a permis d'accéder au marché du travail, ce qui était important, ce qui donnait une indépendance financière des femmes, entre autres, et le fait d'enlever de l'inquiétude d'avoir des centres à petite enfance qui s'occupent des enfants par ce qu'ils sont. Là. Il y a un programme éducatif, il y a du personnel qualifié, c'est un lieu d'apprentissage, donc sécuritaire et absolument nécessaire pour donner comme priorité au Québec que les enfants sont une priorité.
De 2001 à 2003, vous avez occupé le poste de ministre délégué à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Pauvreté, exclusion sociale. Il y a encore bien du travail à faire pour que les femmes ne demeurent pas parmi les plus pauvres et les plus exclus.
Oui, effectivement. On le voit, là. Surtout en cette journée des droits des femmes, il y a beaucoup de statistiques qui sortent et puis on réalise à quel point que notre chemin n'est pas accompli encore. L'égalité n'est pas encore là. Et même si on atteignait une certaine égalité, il faut toujours être vigilante. Alors, il y a beaucoup d'acquis qu'on a fait au fil des années. Je me faisais une petite histoire, un petit historique de nos droits. Je m'en suis sorti trois là, qui ont été vraiment importants au Québec, puis qu'on doit le réaliser, mais on voit aussi tous les efforts que ça a pris. Le droit d'exister comme personne entière, d'être une femme, le droit de vote, le droit de représenter, d'aller sur des CA, etc., le droit d'emprunter, on n'était pas capable d'emprunter à une certaine époque, le droit d'avoir un nom. On était notre nom de jeune fille n'existait pas. On prenait le nom du mari là, plusieurs années. Ça a l'air comme si c'était loin puis dans le temps, mais c'est pas si loin que ça. Là. C'est en 1981 qu'on a pu avoir notre nom sur la carte d'assurance maladie. Le droit de travailler et d'exiger des conditions. Le droit de réaliser, de se faire entendre. Je pense à des projets économiques. Je pense à des réalisatrices de contenu au niveau du cinéma, de la culture. Alors, le droit d'être là, nous aussi. Le droit de concilier. Famille, études, travail. Je dirais qu'il reste encore beaucoup sur le droit d'aimer sans contrainte, avec tout ce qu'on vit depuis les derniers mois, dernières années. Le droit d'avancer, d'aller encore plus loin qu'il nous reste à faire. Alors, j'entendais tout ce qu'il y a au niveau des soins, puis de la santé, puis de l'éducation, le droit de travail invisible, tout ça, il y a énormément de travail encore à faire. Donc, rien prendre pour acquis. Les luttes continuent.
Oui. L'avenir est féministe. Est-ce que c'est un slogan qui vous parle?
Ah oui. Pour moi, c'est pas juste l'avenir, c'est le présent. Puis ça, là, c'est avec la société, avec les hommes, avec tout le monde, là, dans le fond, là. Mais il faut vraiment s'assurer que nos... Je vois des pères, là, inquiets pour leurs filles qui rentrent dans le monde des adultes. On n'est pas quand même calme là du fait que l'égalité n'est pas encore là. Parce que les femmes, on le voit en amour, on le voit avec ce qui peut se passer avec les agressions et tout. Il n'y a pas encore de la sécurité à ce niveau-là. Là. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Aidant naturel, moi je le suis, aidante naturelle pour ma mère de 92 ans, qui va avoir 93 ans. On voit que c'est. Je le voyais pendant la pandémie, juste aller prendre les vaccins, ça a été comme aidante naturelle, ben moi j'avais pas le droit en même temps que ma mère, qui elle avait 92 ans, mais moi j'avais pas l'âge requis pour. Tu sais, c'est toutes des petites choses de la vie, des petites choses quotidiennes qui fait qu'on réalise qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Merci beaucoup, Nicole Léger, pour cet entretien. Et 4 jours à l'avance, bon anniversaire.
Oh, merci. Merci beaucoup. Et toi aussi, bientôt d'ailleurs.
Oui, salut, à bientôt.
Au revoir.
Salut bien. Christine Marchand est avocate, ses fonctions de directrice du secrétariat général et des communications du Centre de services scolaires de Sorel-Tracy nous l'ont fait bien connaître. Elle professe maintenant au Centre de services scolaires Marie-Victorin, dont elle est absente pour un congé de maternité. Bonjour Christine.
Bonjour Sylvain, comment allez-vous?
Je vais bien avec le petit Ludger, la descendance est tombée majoritairement masculine chez vous là.
Oui, tout à fait. La balance du pouvoir a basculé du côté masculin. Là, maintenant, on a 3 hommes dans la maison avec 2 femmes.
L'avenir est féministe. Est-ce que le slogan du collectif 8 mars vous parle?
Tout à fait. Puis comme Mme Léger le disait précédemment, tu sais, on parle d'avenir, mais on parle aussi de présent. Parce que, je pense que les femmes véhiculent des valeurs qui sont très humaniste. Puis je pense que dans la période difficile là, qu'on traverse depuis 2 ans, mais aussi avec la guerre là, en Ukraine présentement, mais tu sais, je pense que l'avenir est féministe, c'est très, très, très porteur de sens. En tout cas, pour moi, là, ça l'est tout à fait.
Votre mère, ai-je pu lire, a une grande partie de sa vie œuvré à l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes de sa région. Le flambeau est-il passé des mains de votre mère aux vôtres? Avez-vous cette même envie?
Ben, clairement, moi je suis originaire de la Beauce. Ma mère a travaillé une grande partie de sa carrière dans des organismes communautaires, là, si je pense notamment à la fin de sa carrière, là, pour la promotion des métiers non traditionnels. Donc, assurément que le travail que ma mère a effectué dans ma région natale a percolé là, dans ma personne. Puis c'est pas étranger non plus au fait que je me sois inscrite en droit puis que j'ai fait une carrière dans ce domaine-là. À savoir si j'entends devenir militante, peut-être pas, mais assurément que pour moi, là, la défense des droits puis les valeurs d'égalité, de justice, d'équité, c'est profondément ancré là, dans ma personne, tant au niveau professionnel que personnel. Là.
Bon, alors où en est l'égalité des sexes aujourd'hui? Le slogan qu'a choisi l'ONU là, pour cette journée du 8 mars, c'est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Est-ce que vous êtes assez d'accord que l'avenir durable passe par là?
Bien, c'est sûr que, comme je disais plus tôt, les femmes véhiculent des valeurs qui sont très très orientées vers l'extérieur de leur propre personne. Donc, en ce sens-là, je pense que oui, les femmes vont toujours militer pour une certaine forme d'égalité. Comment je vous dirais ça? C'est la nature même de l'humain de vouloir être égaux aux autres. Je pense que tu sais, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Là, tantôt, Mme Léger parlait de 1981 où on n'avait pas notre propre nom sur les cartes d'assurance maladie. T'sais, moi, je suis née en 82, donc c'est sûr que tu sais, j'ai pas vécu cette partie-là, mais c'est sûr que je vois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations qui ont été faites dans les dernières années en termes d'égalité, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Tu sais, personnellement, moi, je suis avocate de formation. Je pense à toutes les travailleuses autonomes. Ben, c'est sûr que présentement, je suis en congé de maternité. Moi, je travaille pour un organisme public, fait que j'ai pas de crainte à avoir par rapport à mon retour au travail ou si je vais comme être déclassée, si vous voulez, dans ma profession de par mon congé de maternité. Mais je sais que j'ai des amis avocates, des collègues avocates qui travaillent dans le privé, puis elles doivent malheureusement écourter leur congé de maternité de manière assez considérable pour pouvoir maintenir le flow là, dans leur profession. Donc, tu sais, je pense que on est quand même en 2022. C'est des choses qu'on devrait voir de moins en moins.
Vous avez raison.
J'imagine que Mme Etty a parlé tout à l'heure là, de travail invisible. Puis
Elle en parlera tantôt, certainement, Sonia Etty, que nous recevrons dans les prochains instants. Je dois vous remercier. Merci beaucoup, Christine Marchand. Merci.
Bien, avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée. Nathalie Bergeron, bon midi.
Bon midi, bonjour. Que vous êtes donc inspirantes, les filles, que j'aime d'entendre et qu'on va continuer à entendre en ondes. Ça nous manque de se rencontrer encore plus.
Nathalie Bergeron est photographe de carrière et sa carrière a ceci de particulier qu'elle a décollé en 2008 grâce à un club féminin, Femme Club du Bas-Richelieu, où était très active Nicole Bergeron, qui vous a en quelque sorte prise sous son aile.
Complètement, parce que mon courriel et projet que j'avais lancé, Hommage au corps de femme, en février 2008, quand j'étais à Montréal à travailler chez Équiterre, ne s'était pas ramassé dans la boîte courriel de Nicole Bergeron, bien, Nabé Photographe n'existerait pas, tout simplement. Cette volonté-là du 8 mars, moi, je dois dire, avant d'avoir repris la caméra, moi, j'ai travaillé 15 ans comme intervenante sociale, dont 5 ans Amérique latine, Afrique de l'Ouest. Et pour moi, le 8 mars, je me souviendrai toujours de ma première manifestation. J'étais à ce moment-là en Colombie, où est-ce que le 8 mars 95, j'ai vu des milliers de femmes prendre la rue cette journée-là pour porter haut et fort leur besoin de s'exprimer en toute sécurité. Pour moi, ça a été ça, ma première expérience vraiment là, à l'international du 8 mars, parce qu'on le voyait moins ici dans notre région. C'est certain que quand je suis revenue février 2008, après ça, bon, Hommage au corps de femme est parti. Nicole a dit, avec Femme Club du Bas-Richelieu, qui m'ont laissé la place pour pouvoir créer, mais surtout rencontrer des dizaines de milliers de femmes au fil des années.
Ben oui, mais c'est ça. Vous êtes parti. Attendez, il faut que vous me parliez de ça. Vous êtes parti en minibus rose avec tout votre équipement à bord, décidé à photographier 10 000 femmes dans un périple qui vous mène aux quatre coins du Québec. Vous avez appelé votre véhicule la caravane du bonheur. Est-ce que c'était un gros trip artistique ou c'était un pèlerinage féministe?
C'était un mix de tout ça parce que, bon, il y a eu tous les projets en tant qu'artiste, mais le 10 000 visages s'est fait en 2010. Pourquoi? Il y avait un momentum. C'était les 100 ans de la Journée internationale des femmes. Le tout se faisait avec la Fédération des femmes du Québec au Kivu. Et moi, je me suis dit, moi, en tant que femme, qu'est-ce que je peux faire pour aller à la rencontre des femmes et des hommes un peu partout? Nicole se battait avec une récidive de cancer du sein. La caravane du bonheur est arrivée toute rose en hommage à elle. Et on est parti, mini-équipe, pas de financement, sa route, pour rencontrer toutes ces femmes-là, petites et grandes. Ça a été 10 018 personnes en 5 mois. Et à partir de ça, puisque j'ai rencontré les gens, qu'on a discuté tantôt, on se demandait au niveau de l'avenir durable, le féministe aura toujours sa place. Et moi, je dis toujours que j'ai mon père, le plus grand féministe de tous, qui m'a toujours dit, ma fille, tu peux faire ce que tu as envie sur la planète. T'as droit de choisir ton métier. Et encore plus aujourd'hui, on le voit malheureusement, tristement, avec qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, que les femmes ont été mises encore plus dans des situations de précarité. Moi, je travaille beaucoup avec nos jeunes hommes et femmes en milieu scolaire au niveau artistique. Est-ce que je vois ce que je crée? On revient beaucoup, beaucoup à l'image. Moi, je suis photographe. On revient beaucoup à l'image. Plus qu'on va parler, qu'on va laisser la place, qu'on tricote des sociétés collectivement ensemble pour aller au-devant, on souhaite un avenir meilleur, mais on le sait et vous avez vos panélistes qui en parlent. On a eu des grandes avancées. Moi, ma grand-mère de 107 ans qui en parle également. On a eu des grandes avancées, mais il faut pas arrêter.
Il faut pas arrêter. Puis nous.
Faut pas arrêter.
Puis moi, je dois pas arrêter de prendre des téléphones. Merci beaucoup, Nathalie Bergeron. Merci beaucoup.
On se retrouve prochainement. Merci à tous. Bon 8 mars.
On habite pas loin. Merci, Nathalie.
Merci, au revoir.
Bye. Rachel Doyon dirige la Maison de la musique de Sorel-Tracy. Bonjour, Rachel.
Bonjour Sylvain, que c'est inspirant tout ça.
C'est bien, hein,
ça m'a tout de suite emmené Nicole, parce que je l'avais écrit sur ma feuille, Nicole Bergeron, qui nous permettait de se rencontrer, et moi j'amènerais Michel Lacombe-Gautier avec Femme et Ville aussi, sur laquelle j'ai siégé, puis qu'on a bâti par la suite le hockey féminin.
OK.
C'est très énergisant tout ça, merci beaucoup.
Moi je vais vous parler de musique. Les grands compositeurs, Bach, oui. Mozart, Beethoven, Chopin, est-ce que vous remarquez quelque chose? Ce sont tous des hommes. Où sont les femmes? Où sont les femmes dans ces années-là? Où sont les compositrices?
Ah, il était caché en arrière du mari ou du frère. On a Laurence Manning qui a fait son doctorat sur Fanny Mendelssohn et qui était cachée justement, qui pouvait pas présenter ses œuvres parce que c'était Félix qui présentait les œuvres de peut-être Fanny ou inspirée de Fanny. Et comme Jeanne Amiel qui a fait son doctorat sur Clara Schumann, qui elle était dans l'ombre de son époux. À l'époque, c'était les hommes qui devaient briller et non les femmes, puis même les pères disaient « Toi, t'es là pour faire... c'est comme ton plaisir de faire du piano. Tu ne dois pas en vivre. Non, toi, c'est la famille, c'est la femme et enfant. » Ça me fait penser aussi aux chefs d'orchestre, aux femmes, tu sais. Puis, mais actuellement, écoute, tout est en train de tourner.
J'ai envie de vous demander, en 2022, ça dit quoi, compositeur, compositrice? Est-ce que les femmes sont à l'avant-plan autant que les hommes?
Absolument. Ben, écoute, c'est pas encore fait, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, je sais que les femmes maestras initiées à Belgique par Zofia Wisloka, qui est chef d'orchestre depuis longtemps et qui a justement fait briller plein de femmes maestras. Je pense à aussi les femmes symphoniques qui actuellement sont mises de l'avant par l'OSM, dont Nadia Gilbert. Bon, j'avais écrit les noms un peu partout. On a des chefs qui... Il n'y a pas assez de chefs féminines, ça c'est clair. Mais actuellement, il y a des concours à Paris et au Québec qui, là, ils sont en train de leur faire place. Et Nadia Gilbert, si je ne me trompe pas, qui est une chef d'orchestre. Je pense à notre Josée Laforêt qu'on a eu longtemps ici sur le territoire, qui a été extrêmement importante avec notre harmonie qui a fêté quand même son 100e. Mais c'est sûr qu'au niveau de la musique aussi, tu sais, ça s'est beaucoup amélioré au niveau des orchestres à cause que, comme ils disent ici, d'une note, la part des femmes s'est accrue dans les orchestres, et cela notamment grâce à l'utilisation du paravent empêchant de voir l'interprète. Imagine-toi, il fallait passer par là.
Ah là là là.
Qu'il y ait un paravent pour qu'enfin il y ait plus de femmes dans les orchestres symphoniques, mais les chefs sont en train de justement d'émerger partout. Et vous allez voir dans les prochaines décennies, la prochaine décennie, il va y avoir énormément de chefs féminines, maestro, maestra qu'elles appellent. Et ça va être extraordinaire, ça c'est sûr. Et comme on est bâti d'un monde de femmes et d'hommes, je pense que partout, autant en musique que dans nos postes de décision qu'en sport, partout, il doit y avoir autant de femmes que d'hommes. Pour justement apporter cette vision de sécurité, de bâtir notre développement jamais au détriment de la sécurité, de l'environnement, de la santé, des valeurs de notre communauté. Ça, c'est extrêmement important que c'est les femmes qui sont dans les postes de direction aussi soient là justement pour protéger les acquis que l'on a construits et que ces femmes-là se sont battues pour nous. Et que nous, aujourd'hui, moi, pour moi, la journée des femmes, c'est tous les jours qu'il faut le faire. Je suis mère de 3 garçons. C'est important de communiquer à mes fils le respect de leur petite blonde, de leur future blonde, la manière aussi que, tu sais, qu'on vit les relations avec leur femme, leur future femme, leur future épouse. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses à travailler. Mais ça se travaille dans les familles, qui se transmet à nos filles et à nos garçons, parce que moi, j'ai eu la chance d'être entourée d'hommes qui m'ont donné cette place incroyable, et je l'ai prise avec grand plaisir, et ils m'ont supportée, puis et je leur en remercie, comme j'ai croisé des femmes extraordinaires et très inspirantes encore aujourd'hui.
Vous l'êtes vous-même inspirante. Merci beaucoup, Rachel Doyon. Merci beaucoup.
Donc, bravo à toutes ces femmes.
Après la pause, Diane de Tenancourt, Sonia Etier et Maud Allaire.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier, une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée, lucier.co.
Le mois de mars, c'est aussi l'arrivée du printemps, et qui dit printemps dit changement. Du 24 février au 30 mars, rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour la promotion des électroménagers fiables de Maytag. L'équipe dynamique de Meubles André Beaulieu saura vous accompagner dans le choix de nouveaux électroménagers. Profitez de rabais additionnels allant jusqu'à 300 $ sur la marchandise sélectionnée, parce qu'avec Maytag, la fiabilité dure. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Diane de Tenancourt a été élue, réélue, sans opposition, mairesse d'Yamaska en novembre. Elle devenait quelques semaines plus tard la première femme préfète suppléante de la MRC, défaisant au scrutin secret le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin. Les gars ont préféré une femme, donc. Bonjour, Diane de Tenancourt.
Bonjour, Sylvain.
Ça se passe comment dans vos nouvelles fonctions, Diane?
Ben, ça va très bien. Écoutez, je suis là en appui au préfet, donc non, pour le moment, j'ai aucun problème. Là, ça va, tout va bien.
Le pouvoir au féminin...
Je te remercie de m'avoir invité. Écoute, c'est un panel fantastique. On voit qu'on a des femmes dans la région qui sont motivantes.
Le pouvoir au féminin, Diane de Tenancourt, il se distingue comment du pouvoir au masculin?
Écoutez, je pense que là, on est dans une phase, c'est une avancée constante. Là. Il se distingue comment? Je pense que peut-être plus dans la conciliation. Je suis très bien acceptée, moi, au sein du conseil de la MRC. Mon opinion compte. C'est pris en considération. Puis je pense que c'est une bonne chose. Puis, je pense que le chemin est là, il est tracé. Puis je pense qu'avec les dernières élections municipales, où on a vu beaucoup de femmes prendre le pouvoir dans des grandes villes, peut-être qu'il y a encore du chemin à faire au niveau des petites municipalités, là, parce qu'à ce niveau-là, c'est il y a encore du chemin à faire. Là. Je pense qu'on a encore des... C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de parti politique au niveau des petites municipalités, mais on va y arriver.
Le collectif du 8 mars qui professe que l'avenir est féministe, est-ce que ça vous rejoint?
Oui, puis écoutez, on voit qu'on avance. On avance dans tous les... En tout cas, au domaine de la politique... je pense qu'on a prouvé, puis on prouve avec les années depuis 2005 qu'il y a des avancées constantes, là. Ça progresse continuellement. Fait que oui, l'avenir est féministe, je pense. Mais il faut saluer aussi les hommes qui sont derrière ces femmes-là aussi, là, parce que c'est sûrement grâce à vos hommes aussi qu'on peut avancer, parce qu'ils nous fournissent l'aide dont on a besoin aussi, l'appui aussi dont on a besoin pour avancer.
Alors derrière chaque grande femme, il y a un homme.
Oui, certainement.
Merci Diane de Tenancourt. Merci, excellente journée.
Au plaisir de vous voir.
Merci. Enseignante Sonia Etier a eu une carrière syndicale bien remplie. Elle a gravi jusqu'au plus haut les échelons, occupant pendant 3 ans la présidence de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour Sonia.
Bonjour Sylvain.
Qu'est-ce que c'est exercer le pouvoir au féminin? Comment l'avez-vous fait, vous, cet exercice au féminin du pouvoir à la CSQ?
Ben, je pense que au féminin, ça veut dire un leadership de partage. Et non pas de l'utiliser de haut en bas. Donc, moi, à travers les instances, des instances de 400 personnes, j'étais très à l'écoute. Et puis, je pense que comme femme, on veut rallier les positions pour sortir plus fort et non pas nécessairement être dans un climat de confrontation.
Les femmes demeurent surreprésentées dans les secteurs traditionnellement féminins, comme les soins de santé et l'enseignement où vous avez fait carrière, alors que leur présence dans les secteurs à prédominance masculine, par exemple les industries primaires puis la construction, a peu évolué au cours des dernières années, demeure faible. Il y a encore du travail à faire.
Il y a encore beaucoup de travail à faire pour démystifier le fait que les femmes peuvent... aller dans des professions ou des métiers qui sont non traditionnels. Et on regarde là, dans le secteur de la santé, il y a au-delà de 90% qui sont des femmes. Dans le secteur de l'éducation, 75%. En petite enfance, c'est peut-être 99% qui sont des femmes. Alors oui, il y a du travail à faire encore. Et justement, c'est bien encore une fois qu'on souligne la journée des droits des femmes, ça nous permet de constater tous les acquis qu'on a eus, mais en même temps, je pense que les acquis sont toujours ou souvent remis en question, donc de là l'importance de poursuivre la lutte.
Le revenu, une différence dépassant 11 000 $ persiste entre le revenu annuel total médian là, des femmes et celui des hommes. L'écart est particulièrement marqué chez les personnes n'ayant aucun diplôme. Alors là aussi, là, économiquement, on voit qu'il y a encore du travail à faire. L'égalité salariale, là, l'équité salariale, c'est pas complet, là.
Ah, absolument pas. D'ailleurs, le ministre Boulet avait déposé un projet de loi sur l'équité salariale qui est devenu une loi et qui est maintenant contesté devant les tribunaux par les organisations syndicales parce que ça ne nous a pas permis d'atteindre l'équité salariale. Il y a encore du gros travail à faire là-dessus. On a fait quand même un bon bout de chemin là, au niveau de l'équité salariale. Quand la loi avait été adoptée il y a 25 ans, il y a quand même 800 000 femmes, puis peut-être plus, là, qui ont eu un redressement salarial. Mais on n'est pas quand même atteint, on n'a pas encore atteint là, cette équité avec les hommes.
L'avenir est féministe. Comment aimez-vous le slogan du collectif du 8 mars?
Ah, moi, je l'adore, ce slogan-là. L'avenir est féministe. Ça veut dire, c'est pas l'avenir pourrait être féministe, devrait, c'est est féministe. Donc, c'est incontournable. Ça veut dire qu'on va prendre les moyens. Et dans le thème du collectif, là, il y a quand même 4 volets, là. Parce qu'on sait, là, depuis la pandémie, on a vraiment compris le travail important que les femmes font dans notre société, notamment au Québec, parce que les femmes au Québec en santé, en éducation, enseignement supérieur, petite enfance, ont tenu le Québec à bout de bras depuis 2 ans. Alors, je pense qu'il faut reconnaître le travail des femmes. C'est très, très important. Et je pense qu'on parle, dans le thème de l'ONU, de l'avenir durable. C'est peut-être abstrait, mais les changements climatiques affectent majoritairement les femmes. Donc, il faut se préoccuper d'environnement, d'écologie et tout ça pour s'assurer que les femmes puissent avoir un statut social, économique et aussi en termes de santé physique et psychologique là, correct.
Merci beaucoup, Sonia Etier, d'avoir participé à cette émission. Merci.
Ça me fait plaisir.
Merci, Sonia. Nous terminons en compagnie de la mairesse de Contrecoeur, Maude Allaire. Bonjour, Maude.
Bonjour Sylvain, comment ça va?
Ça va bien. À l'issue des dernières élections municipales, la représentation des élus au sein des conseils municipaux a connu une progression encourageante, note l'Union des municipalités du Québec. Chez les élus de 18 à 44 ans, on a même atteint la zone paritaire. Alors voilà qui vous fait sûrement plaisir.
Bien, c'est encourageant parce qu'au Québec, nous sommes passés de 18 % de mairesse à 26 % de mairesse. Donc, c'est quand même 25 % des élus qui sont mairesse dans l'ensemble des maires et mairesse au Québec. Donc, il y a encore du chemin à faire, on s'entend. Et au Canada, avec la Fédération canadienne des municipalités, où ce que je m'investis de plus en plus, sur différents partenariats pour parler de gouvernance au féminin et faire valoir le leadership féminin également. On parle de 28 % de femmes sur des conseils municipaux et seulement 18 % de mairesse à travers le Canada. Donc, c'est vraiment important de continuer à accroître la participation des femmes dans les gouvernements municipaux et de valoriser le leadership municipal inclusif. Cette journée-là est vraiment importante. Il faut vraiment en parler et faire tout en sorte pour que tout individu donne la place nécessaire à ce que les femmes puissent continuer à s'émanciper et prendre leur place pour vraiment représenter une société où il y a autant de femmes et d'hommes. Donc, quand on parle de conseils municipaux, de politique provinciale ou fédérale, la parole des femmes est importante pour pouvoir avoir des points de vue diversifiés, inclusifs, qui représentent la population et notre démocratie qui nous est si chère quand on voit ce qui se passe en Ukraine présentement.
Les femmes en politique, est-ce qu'elles cassent le moule?
Les femmes en politique n'ont pas le choix de casser le moule. Tu me fais penser que, dans le fond, on est toutes des pionnières, en quelque sorte. Je pense que si j'ai cette force de caractère-là, c'est parce que je viens de femmes en avant de moi qui étaient pionnières. J'ai eu une grand-mère que mon grand-père était conseiller municipal, mais ma grand-mère ne s'est jamais brimée de parler. Elle a tout le temps porté sa voix, elle s'est tout le temps exprimée, peu importe devant quel homme, mais toujours avec respect et conviction. J'ai eu une mère dans les années 70 qui travaillait, était sur le marché du travail, a eu ses enfants, donc elle est une pionnière, elle aussi, parce qu'à cette époque-là, les femmes rentraient sur le marché du travail. Donc, dans ma vie, j'ai eu des modèles forts. Et présentement, moi aussi, je suis une pionnière quand on pense que seulement, dans mon premier mandat, 18 % de femmes qui étaient mairesse. Et au Canada, présentement, c'est seulement 18 % de femmes qui sont mairesse. Donc oui, nous avons à faire du mentorat avec d'autres femmes pour qu'elles se lancent en politique, pour leur faire comprendre qu'elles sont importantes, qu'elles doivent s'exprimer, qu'on doit les respecter et qu'elles ne vivent pas de discrimination. Et c'est dans cette optique-là que je m'investis auprès de la Fédération canadienne des municipalités sous différents partenariats où ce que j'ai fait des visioconférences ou que je fais des conférences sur la place des femmes, le leadership au féminin. J'ai fait un partenariat Canada-Tunisie et là, je vais commencer un autre partenariat Canada et en Afrique avec le pays du Bénin. Et on se souvient que j'étais allée aussi également en Côte d'Ivoire, dans une commune aussi, autant à Abidjan, dans la capitale, mais dans la commune de Korogo, où ce que j'ai parlé aux femmes d'entrepreneuriat, de prendre leur place et de faire en sorte d'aller à l'école, d'aller chercher des études, des diplômes. Bon, même au Québec, il faut le dire et le redire. Et quand on voit des petites filles te dire « Merci, merci, t'es un modèle, tu portes ta voix, t'oses parler, t'oses prendre des décisions, tu nous aides à aller plus loin, à rêver. »
Wow, que ça doit faire plaisir.
La discrimination faite aux femmes.
Maude, merci beaucoup, Maude Allaire. Merci. Merci à l'ensemble de mes invités, Catherine Objoie, Stéphanie Desmarais, Claudine Couture-Trudel, Corinna Bastiani, Myriam Beauchesne-Lachapelle, Nicole Léger, Christine Marchand, Nathalie Bergeron, Rachel Doyon, Diane de Tenancourt, Sona Étier et Maud Allaire. Merci à Laurent Cournoyer au standard téléphonique. À la semaine prochaine pour une autre édition de La Tribune. Bye-bye.
La Tribune, une présentation de Meubles André-Beaulieu et de Lucier.